La méditation de ce matin dans Actes chapitre 12, les versets 1 à 17. Actes 12, les versets 1 à 17. Nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant que d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons maintenant inviter pasteur Jacques Raz à développer ce message pour nous.
Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. de retrouver des visages que j'ai eu la joie de côtoyer pendant quelques années alors que j'étais pasteur de cette église. Bon, ça date déjà, si je ne me trompe, du siècle dernier ou à peu près. Hein. Et puis de voir de nombreux nouveaux visages. Avant de partager une réflexion biblique ce matin, je ne peux m'empêcher, même si j'ai laissé mon veston dans la voiture, de me rappeler que j'ai quelques casquettes sur la tête. Celle de président de Adra Belgique, celle de secrétaire de La Marnière. Et si je mentionne cela, c'est parce que je voudrais vous rendre attentif à un événement qui aura lieu le sabbat 26 octobre. Vous me direz, c'est encore loin, mais probablement que je ne reviens pas d'ici là. Et je voudrais vous rendre attentif à la publicité qui sera faite dès le mois de septembre. Il y a ici, sur Bruxelles, une compagnie de théâtre, une troupe de théâtre, qui s'appelle Artetsa, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, qui est une troupe de théâtre documentaire, si vous voulez. C'est-à-dire, leur objectif, c'est d'interroger les enjeux de société. Et ils ont monté une pièce pour parler de la pauvreté pas seulement en Belgique, mais dans le monde, et pour parler des différentes pauvretés. Parce qu'on voit toujours la pauvreté uniquement comme manque de sous, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Et donc, ils ont pour objectif de conscientiser les personnes à cette pauvreté. Et donc, La Marnière et Adra ont décidé d'inviter cette troupe à l'église de Bruxelles-Centre. Ce sera, je pense, en début de soirée, pour conscientiser non seulement nos membres, mais tous nos sympathisants, et vous êtes invités à venir avec des personnes de votre connaissance, pour prendre mieux conscience d'une mauvaise distribution des richesses, de la précarité, de l'exclusion, et je dirais pour un peu ouvrir nos yeux ou transformer notre regard sur la société qui nous entoure. Donc, soyez attentifs à cette annonce, venez nombreux, amenez des amis, des connaissances, l'entrée est gratuite. La sortie, bon, ça c'est... il y aura certainement un plateau dont le bénéfice sera au profit de Adra Belgique. Je reviens maintenant au thème de ma prédication qui peut-être vous a tellement intrigué qu'on l'a mis en tout petit pour être sûr que vous ne le voyez pas trop, qui est « Chercher l'erreur ». Probablement que ça vous est déjà arrivé en ouvrant l'un ou l'autre magazine de trouver ces deux dessins qui ne sont pas tout à fait semblables où il faut essayer de voir qu'est-ce qui est différent du premier dans le deuxième, hein, chercher l'erreur, chercher la différence. Bien, je me suis dit qu'on pouvait, dans ce récit du livre des Actes que votre ancien vient de lire, chercher aussi l'erreur. C'est-à-dire peut-être la différence entre ce que dit le texte et ce que nous aurions écrit si nous avions écrit le texte. Ou peut-être plus simplement, si je vous avais demandé de raconter cet épisode, qu'est-ce que vous auriez raconté? Sur quoi auriez-vous mis l'accent? Peut-être que vous auriez raconté des choses qui ne sont pas dans le texte, et probablement que vous auriez omis certaines choses qui sont dans le texte. Et c'est peut-être ces choses-là que nous aurions peut-être occultées involontairement qui sont peut-être les plus importantes. D'où l'idée, chercher l'erreur. Qu'est-ce qui choque dans le texte? Alors, ce texte de Actes 12, peut-être est-il utile de le remettre dans son contexte du livre des Actes. Et le contexte du livre des Actes, en fait, il a été donné par Jésus lui-même. Si on voit au chapitre 1er, au verset 8, Jésus, avant son ascension, parle aux disciples qui sont là et leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, Jésus, en leur donnant leur mandat d'apôtre, de disciple, leur dit « Il y a trois cercles concentriques, à Jérusalem, en Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et si l'on lit attentivement le livre des Actes, le début du livre des Actes, on retrouve exactement ces trois cercles. Le premier, c'est à Jérusalem, et là, vous connaissez les épisodes, la Pentecôte, Vous voyez ce qui est agréable, ce qui est moins agréable, les disputes dans l'Église, il faut nommer des diacres, tout ça se passe à Jérusalem, jusqu'au moment de la mort d'Étienne. Et à la mort d'Étienne, chapitre 6, et le verset... attendez. Oui, d'abord, ça se passe dans le temple, puis à la mort d'Étienne, chapitre 8, verset 1er, le texte nous dit... Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il jura une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et Samarie. Tiens, ils étaient à Jérusalem. Maintenant, il a fallu la mort d'Étienne et la persécution pour passer dans le deuxième cercle, Judée et Samarie. Remarquez que ce n'est pas une décision de la tête de l'église. Parce qu'en plus... Tous se dispersent en Judée et Samarie, sauf les apôtres. Eux, ils sont vissés à Jérusalem. Et c'est pourquoi le livre des actes des apôtres, tel qu'on l'appelle, devrait plutôt être appelé le livre des actes du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui les oblige à aller plus loin. C'est la persécution qui fait qu'ils vont aller en Judée et en Samarie. Et donc, les chapitres suivants vont nous parler de l'eunuque éthiopien, vont nous parler de Corneille. Et alors là, avec Corneille, on arrive vers le troisième cercle, en quelque sorte. Parce qu'on est encore pas trop loin de Jérusalem, mais on est quand même avec un païen. Et ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que au chapitre 10, alors, et au verset 47, le Saint-Esprit va descendre, et Pierre leur dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Dieu fait quelque chose d'anormal, c'est que le Saint-Esprit descend alors qu'ils ne sont pas encore baptisés. C'est la seule fois dans le livre des Actes. Et alors, à partir de là, ça va être la prédication dans le monde entier. Et après le chapitre 12, on ne va plus nous parler de Pierre et d'autres apôtres, mais on va nous parler de Paul et donc des voyages missionnaires de Paul. Et donc, le chapitre 12 ici... arrive à un moment où l'Église s'est développée selon le plan que Jésus avait donné, Jérusalem, Judée, Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre, et conclut en même temps ce qu'on peut appeler le cycle de Pierre dans le livre des Actes. Alors, cette période où l'on parle de Pierre et des autres apôtres est une période quand même assez extraordinaire. Parce que si on lit les chapitres précédents, non pas sous l'œil de dire géographiquement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui les a obligés à passer d'un cercle à l'autre, autrement dit le Saint-Esprit, si on le regarde sur le plan des miracles qui se passent, c'est une période extraordinaire que, je pense, vous et moi, on souhaiterait pouvoir vivre. Déjà au chapitre 3, après les miracles de la Pentecôte, on a le boiteux à qui Pierre et Jean vont dire « Lève-toi et marche », il se lève et il s'en va. Après, au chapitre 5, on nous parle de tous les miracles, les gens qui venaient, qui approchaient les apôtres, et puis les miracles se faisaient. Au chapitre 8, même chose. Chapitre 9, le paralytique, la résurrection de Tabitha, de Dorcas. Une période extraordinaire sur le plan des interventions de Dieu. Ces gens qui sont dans l'Église, j'allais dire, sont des habitués du miracle. Sont des gens que le miracle ne doit plus étonner. Et voilà qu'on nous rapporte alors ce qui se passe ici, au chapitre 12, avec l'emprisonnement de Pierre. Bon, d'emblée, le texte nous dit, au verset 3, c'était pendant le jour des pains sans levain. C'est-à-dire qu'on est autour de la Pâque. Et ce qui est un problème pour Hérode, c'est que pendant ce temps-là, on ne peut pas réunir le tribunal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Pierre qu'on a emprisonné? Eh bien, on va le faire garder. Et pas un petit peu, hein. Le texte précise quatre escouades de quatre soldats chacune. Encore un petit peu, on nous donnerait les noms de ces soldats. 16 soldats pour le garder alors qu'il est enchaîné. Pas de danger qu'il s'échappe. On sent que l'enjeu de celui qui a écrit le livre des Actes et de montrer combien le miracle va être extraordinaire. Pierre ne s'est pas trouvé dans une cellule où finalement il a réussi à subtiliser la clé et puis sortir discrètement. Non, il est gardé et gardé sévèrement pendant cette fête de Pâques. Et ce n'est pas pour rien non plus que celui qui écrit le texte nous parle de cette fête de Pâques. Parce que pour le juif, la fête de Pâques, ça rappelle des choses. La sortie d'Égypte. Pour le chrétien, pour le croyant chrétien, Pâques, ça rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et voilà que pendant cette fête de Pâques, Pierre est aux prises avec Hérode. Hérode qui représente en quelque sorte les forces du mal, puisqu'il se met à maltraiter les membres de l'Église. Hérode, le monarque absolu qui réduit les autres à néant. Cet Hérode va mourir, alors que Pierre, victime impuissante de ce tyran, va sortir de prison. Voyez le contraste. Hérode a la volonté de faire du mal. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'on nous dit en une petite phrase qu'il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et puis on prend tout un demi-chapitre pour nous parler de ce qui se passe avec Pierre. Parce qu'on veut mettre l'accent sur cet épisode, probablement parce que cet épisode a des choses à nous apprendre. Pierre, qui se trouve sous surveillance continuelle de la part d'Hérode. Et pendant que Pierre est sous surveillance continuelle, il y a un processus continuel de prière de la part des croyants. Le texte le dit. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, il y avait déjà à l'époque des réunions de prière. Les chrétiens étaient en assemblée, en quelque sorte, pour s'unir devant Dieu, dans une prière d'assemblée. Alors, c'est vrai que, déjà au chapitre 2 du livre des Actes, on nous parle des chrétiens qui étaient unis dans la prière. Mais c'est la première fois dans le texte où on nous décrit, j'allais dire, une réunion de prière. C'est la première fois où, historiquement, on a une réunion de prière qui est organisée. Ils se rassemblent la nuit. Bon, ceci ne signifie pas que toutes les réunions de prière doivent avoir lieu la nuit, bien sûr. Ce n'est pas nécessairement une habitude. Mais il y a ici une urgence. Pierre est en prison. Pierre est dans une situation extrême, où il risque sa vie. La preuve, c'est que Jacques a été exécuté peu de temps avant. Ils sont donc en réunion de prière, mais je dirais un petit peu comme aujourd'hui, on peut avoir des réunions de prière habituelles, et on peut avoir des réunions de prière liées aux circonstances précises, des réunions de prière particulières, spéciales. Ils priaient avec persévérance et ferveur, nous dit une autre traduction. Ils priaient des prières ardentes et assidues. Il prie pour Pierre. Il prie pour Pierre. Un contenu concret dans la prière. Souvent, quand on entend nos prières, que ce soit dans l'assemblée, mais dans les réunions de prière, ben, c'est une espèce de prédication à Dieu, à genoux ou pas, où on se répand en citation de la Bible, où on ressasse un certain nombre de vérités, et puis ce sont des prières bien générales. Ici, on a une prière concrète, précise, avec un objectif précis. Probablement que les prières sont fort semblables, parce qu'on ne peut pas tous prier pour la délivrance de Pierre en disant des choses différentes. Non, ils sont là ensemble pour prier une même prière. Un petit peu comme la veuve que Jésus décrit là devant le juge, qui fait une seule et même prière au juge, mais une prière qui revient et qui revient régulièrement. Et voilà que le texte, à partir du verset 7, nous dit que Dieu intervient par un ange. Et la première chose que nous dit le texte, c'est que il y a une lumière qui va briller dans la prison. Pas tellement utile au texte. Hein. L'essentiel, c'est de savoir que Pierre va être libéré, au fond. Pour la mort de Jacques, une petite phrase. On ne sait pas où, comment, quand il a été arrêté, rien. Et ici, on nous donne les détails. La lumière, lui, dans la prison. On ne peut se trouver nulle part où Dieu ne puisse faire briller sa lumière. Voilà ce que le texte nous suggère. Là où Dieu opère, il y a la lumière, même en prison. Où que l'on soit, qu'on soit à l'hôpital, que l'on soit en prison ou n'importe où, que l'endroit soit beau ou désagréable, on est dans la main de Dieu. La lumière de Dieu peut luire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le texte nous dit que le lendemain, Pierre allait comparaître et donc probablement perdre la tête. Pierre dormait. Je ne sais pas si c'est... Mettez-vous un petit peu dans la situation. Vous êtes en prison, c'est votre dernière nuit, vous savez que demain ça va être fini, vous allez être décapité. Il dort. Et il ne dort pas, je veux dire, de fatigue, il s'est assoupi. Il dort très sérieusement, parce que remarquez que le texte va devoir lui donner des coups de coude. L'ange va devoir lui donner des coups de coude. Pierre sort de la prison, il est encore tout hébété, il se demande si ce n'est pas un rêve. Il dort sérieusement et profondément, hein. C'est pas comme les apôtres qui sont tombés endormis à Gethsémané. Ici, vraiment, il dort. Certains ont dit qu'il dormait du sommeil de la foi. Oui, Pierre dort. Il n'est pas impressionné par ce qu'il risque de lui arriver. Et le texte, par petites touches, est en train de nous dire qu'il n'y a aucun doute possible, la libération, c'est l'œuvre de Dieu. Pierre est gardé, et pas un petit peu. Pierre dort profondément. Ce n'est pas lui qui a décidé de sortir. Non, j'allais dire, il sort malgré Pierre. C'est l'œuvre de Dieu. Un petit peu comme, puisque c'est la Pâque, un petit peu comme Dieu qui va arracher son peuple aux mains de Pharaon. Ici, Dieu arrache Pierre aux mains d'Hérode. Les mêmes mots qu'à Pâque. Dans la hâte, mets ta ceinture, tes sandales, sors dans la hâte. Remarquez que rien dans le texte ne nous dit que Pierre a été étonné de l'intervention de l'ange. Bon, voilà, l'ange est là, Pierre sort, et l'ange l'accompagne pour passer les différentes portes, fait un bout de chemin avec lui, et puis il le laisse. Il ne dit pas à Pierre, c'est là que tu vas te rendre. Non. Pierre, l'ange le libère. Et Pierre, après, doit lui-même faire travailler son esprit, se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, où est-ce que je vais aller. Dieu ne fait pas pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Pierre doit, à un moment donné, prendre soin de lui-même. Revenu à lui-même, il dit, je vois maintenant de manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et donc, il se dit maintenant, après avoir réfléchi, il se dirige vers la maison de Marie. C'est clair qu'il faut laisser une place à Dieu dans notre vie, et parfois on l'oublie un petit peu, mais aussi Dieu ne veut pas faire ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Pierre reçoit une libération surnaturelle, mais après il est appelé à utiliser des moyens naturels et son intelligence. Il décide donc d'aller vers la maison de Marie. Maison qui est assez vaste, puisque le texte nous dit qu'il y a une nombreuse assistance. Oui, il y avait des églises de maisons à l'époque. Il n'y a pas les églises telles que nous les connaissons. On se réunissait dans les maisons et il y en avait beaucoup d'églises de maisons. On parle même de centaines à l'époque. Pierre s'y rend avec l'intention d'expliquer sa libération miraculeuse. Parce que il est bien conscient que toute l'assemblée est dans la grande détresse à cause de lui. Et alors qu'il arrive devant la maison de Marie, les portes sont fermées. Libération miraculeuse de Pierre, les portes de la prison qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand Pierre arrive à la communauté, Pierre est à la rue. Dieu brise les chaînes, il ouvre les portes, l'église est verrouillée. Cherchez l'erreur. On est, comme je disais tout à l'heure, dans une ambiance de miracles. Il y a de nombreux miracles qui se sont déroulés. Et alors, on se trouve face à une profonde résistance et à la stupeur foncière des croyants. Alors que le miracle est presque monnaie courante dans l'Église primitive, ici, on a l'impression qu'on n'y croit pas. Et souvent dans le livre des Actes, Dieu sera obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises pour convaincre les croyants de ses initiatives. Regardez même avec Ananias. Dieu doit revenir à la charge pour qu'il aille chercher Paul. Quand c'était pour Corneille, il a fallu que Dieu prépare Pierre, qu'il lui montre la vision de la nappe, qu'il le mette en appétit en quelque sorte. Dans la maison de Marie, beaucoup sont encore sur leurs genoux quand Pierre frappe à la porte. Et c'est Rode, la servante, une bonne chrétienne, qui n'est pas peureuse, qui est courageuse, qui doit bien connaître Pierre parce que Pierre y est venu régulièrement. Ce n'est pas pour rien que c'est là que Pierre va se rendre. C'est Rode qui va le reconnaître. Parce que personne ne pense que celui qui frappe à la porte, ça pourrait être Pierre. Ben non, on prie pour lui quand même. S'il est là à la porte, il ne faut plus prier pour lui. Hein. Personne ne pense que c'est lui. Hérode va reconnaître la voix de Pierre et dans sa joie, elle rentre dans la maison et elle crie sa joie à toute la maison. Mais le plus déroutant, c'est que Pierre, il est toujours dehors. Il est toujours dehors. Et elle rentre et elle dit, mais c'est extraordinaire, Pierre a été libéré. Réaction des autres qui sont là en train de prier pour Pierre. Il la traite de folle. Il spécule sur la nature de cette apparition. Ça ne peut pas être Pierre. Mais non, Pierre venait de ressusciter Tabitha, donc il n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Ça ne peut pas être Pierre, c'est que c'est un ange. Et Pierre frappe à la porte pendant qu'on spécule sur l'apparition qui est là. Cherchez l'erreur. Rode est la seule à croire que Dieu a répondu à leur prière. Pour les autres, c'est pas possible, c'est pas imaginable que Dieu réponde directement à leur prière. Bien qu'il l'ait déjà fait. Bien que les apôtres ont déjà été, prenez chapitre 5, ont déjà été libérés de prison. Non, ils fonctionnent en cercle fermé. Ça rappelle un petit peu quand Jésus est ressuscité, personne ne voulait y croire. Mais ici, c'est encore plus fort parce qu'ils sont là pour prier pour la délivrance de Pierre. Mais finalement, est-ce que ces chrétiens qui sont là ne nous renvoient pas en quelque sorte en miroir un certain nombre de nos attitudes? Combien de fois nous demandons quelque chose à Dieu et quand Dieu répond, on ne peut pas croire que c'est lui. Nous avons confiance à Dieu, oui, mais pas l'assurance qu'il répond. C'est ce qui se passe là. Hein. Alors ça m'amène à deux réflexions. La première, Rose, qui dans sa précipitation et sa joie, mais quand même dans la foi, au sein de l'Assemblée, elle annonce quelque chose d'insolite, pour laquelle l'Assemblée priait quand même, hein, quelque chose d'inattendu, et personne n'embraye. Personne ne dit, ah ben ça c'est formidable, c'est Dieu qui répond à nos prières. Non. Que se passerait-il, frères et sœurs? Si quelqu'un d'entre nous venait avec une idée qui nous semble insolite, inattendue, un plan ambitieux pour remplir notre mission pour laquelle nous prions, mais qui demande un pas dans la foi. Oh, je ne suis pas sûr que tout le monde suivrait en disant « Dieu nous ouvre une nouvelle porte, allons-y, avec foi ». Nous sommes un peu comme ces croyants. On va y voir les obstacles au lieu d'y voir les possibles. On va dire, mais on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Ben oui, c'est pour ça que Dieu nous ouvre une nouvelle voie. Sommes-nous peureux ou hommes de foi? Sommes-nous prêts à l'action ou à l'inaction? Vous voyez, comme dans les livres des Actes, Dieu veut parfois nous bousculer. Pendant que Dieu ouvre les portes, l'Église ferme les portes. Deuxième réflexion, quand je pense à nos réunions de prière, l'utilité de nos réunions de prière, ce que nous étudions dans les réunions, je pense à certaines églises où on passe des mois et des mois à étudier l'Apocalypse, à étudier ceci, à étudier cela, on étudie des choses qui nous intéressent, qui n'intéressent pas nécessairement les gens envers qui nous avons une mission. On ne réfléchit pas en disant qu'est-ce qui les intéresse ou comment je peux me préparer à les rencontrer, on étudie ce qui nous intéresse dans les réunions de prière. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui frappent à la porte. Mais nous, on n'est pas intéressés par ça. On est dans notre réunion de prière, bien entre nous avec la porte bien fermée. 1453, prise de Constantinople par les Turcs. Vous savez ce que faisaient les cardinaux pendant ce temps-là? Au moment où Constantinople était envahie par les Turcs, ils discutent pour savoir si les anges ont un sexe et pour savoir s'ils ont un nombril. Ah, c'était important, hein? C'était important. Pendant ce temps-là, on massacrait des gens autour d'eux parce que Constantinople était prise par les Turcs. Ils discutent théologie au lieu de discuter de leurs priorités, des vraies priorités. Aujourd'hui, alors que on nous montre que notre planète est presque à un point de non-retour du point de vue de l'écologie, de quoi discutons-nous dans nos réunions de prière, si tant est qu'il y en ait? Quelle est notre préoccupation? Je pense qu'on est parfois comme les cardinaux à Constantinople. Croyons-nous réellement à nos prières? Nous prions pour que Dieu amène des gens à l'Église. D'accord? On dit, Seigneur, amène des gens. Oui, mais quelle est notre part? Et quand les gens se présentent, quelque part, les portes restent closes. Oh, vous me direz, la porte est ouverte. Oui, oui, elle est ouverte. C'est vrai, mais Seigneur, oui, amène des gens, mais quand même pas ceux-là. Seigneur, oui, mais... On pourrait s'interroger sur nos cultes, qui sont ouverts à tous, oui. Mais les gens qui viennent, qui n'ont pas de culture religieuse, vous croyez qu'ils comprennent toujours notre langage de Canaan, notre patois de Canaan? Vous croyez qu'ils comprennent les 144 000 C'est clair pour nous, et encore. Mais c'est clair pour nous, mais pour eux. S'ils assistaient à nos écoles du sabbat, alors oui, géographiquement, si vous voulez, physiquement, la porte est ouverte, mais la porte est fermée, ils ne savent pas entrer dans le cercle. Est-ce que notre porte est toujours ouverte? Est-ce que nous nous mettons à disposition des autres? Ou bien ce sont nos peurs légitimes ou irraisonnées qui prennent le dessus? Pierre se trouvait dehors. Aujourd'hui, ce sont les victimes de violences, les déracinés, les quémandeurs de chaleur humaine. Ce texte d'Acte 12 est révélateur. Ce ne sont ni les palabres, ni les remous internes qui abattent les cloisons, mais le courage de prendre la foi au sérieux, de croire que Dieu peut nous ouvrir des portes et de laisser ces portes ouvertes, d'accueillir. Au cours du culte, dans nos prières, nous prions régulièrement pour les persécutés, pour les exclus, pour tous les chahutés de la vie. Sommes-nous prêts à les accueillir en frères s'ils venaient à frapper à la porte de notre église? Et si c'est Dieu qui les envoyait en réponse à nos prières, au fond? Je me souviens d'une expérience que nous avons vécue avec mon épouse, où... un jour, un couple nous a dit, on aimerait bien avoir une famille Carmonde à notre table pour Noël. Et donc, en tant qu'assistant social et travaillant dans ce milieu-là, elle cherche une famille. Parce que tout le monde n'est pas prêt à aller se montrer en disant, moi je suis un pauvre ou moi je suis... Il y a une famille qui accepte. Quand elle est arrivée à la porte, on dit, ah non, pas ceux-là quand même. Ça a été leur Noël. Ça a été leur Noël. Pierre est à la porte et il frappe. Qui laissons-nous dehors? Tant que la porte reste fermée, on parle de Pierre. Rode et les autres, ils parlent de Pierre, mais ils ne parlent pas à Pierre. Nous parlons beaucoup des autres. Nous avons des jugements de valeur, des raisonnements sur les autres. Mais est-ce que nous leur parlons? Et les premiers chrétiens, là, ne retrouveront la foi et le courage qu'après avoir parlé avec Pierre. et de se rendre compte que c'est Dieu qui était à l'œuvre. L'Église ne se sent-elle pas trop souvent en droit de parler de tout et de tous, sans entrer en dialogue et sans entrer en écoute, alors que l'humanité si diverse aurait tant à nous apprendre sur l'agir de Dieu? Voyez-vous, frères et sœurs, ce texte est pour moi une invitation à être ouvert à l'action de Dieu, à être ouvert aux voies nouvelles qu'il ouvre devant nous, que nous ne soupçonnons pas. Mais sommes-nous prêts à saisir les opportunités en disant « Dieu est à l'œuvre », nous en sommes convaincus, mais il ne doit pas être à l'œuvre, comme ça ce n'est pas possible, ça doit être autrement. Et nous rappeler que notre mission n'est pas d'être bien entre nous, en tant que communauté, mais notre mission, c'est d'être au service de la communauté qui nous entoure. Et la porte ne peut pas rester fermée. Pierre frappa à la porte. Cherchez l'erreur.